Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cela a difficilement pu vous échapper si vous écoutez RFI ou les médias francophones. Il y a 50 ans, en mai 68, la France était en ébullition. Les étudiants avaient pris les rues de Paris, des barricades étaient dressées et le général de Gaulle dénonçait la chienlit avant de convoquer des élections générales. Écoutez le témoignage de Jeannine Marest. En 1968, elle avait 27 ans et était ouvrière dans une usine métallurgique près de Lyon.
C'est vrai qu'on avait l'oreille collée au transistor. Ce qui nous avait beaucoup marqué, c'était la grande manifestation du 13 mai contre la répression envers les étudiants. Et puis, le syndicat des ouvriers, puis la section syndicale des employés et techniciens dans laquelle j'étais, on a fait des propositions de revendications et d'action. La proposition, c'était l'occupation de l'usine et qui a été votée à l'unanimité.
Comme Jeannine Marest, le 20 mai 1968, le monde du travail se met en grève. La veille au soir, voilà ce qu'on en disait dans le journal d'Interactualité.
La grève sera presque générale demain. Les arrêts de travail se sont encore multipliés aujourd'hui et les répercussions sur la vie quotidienne se font de plus en plus sentir. Exemple, les employés des dépôts d'essence sont en grève, les employés de banque ont reçu l'ordre de cesser le travail, mercredi les taxis ne rouleront plus et s'il n'y a pas de grève générale officielle, la paralysie est maintenant de plus en plus nette.
La sphère économique n'est donc pas restée à l'écart de la révolution sociétale qu'a connue la France en mai 1968. Les accords de Grenelle sont certainement les accords syndicat-patronat-gouvernement les plus fameux de l'histoire sociale de la Ve République. Une Ve République créée en 1958 et au cours de laquelle crises économiques et revendications syndicales n'ont pas manqué. Vie économique et sociale sont indissociables et c'est donc à une histoire croisée de l'économie et du syndicalisme français au cours de la Ve République que je vous invite aujourd'hui avec deux invités. Bonjour Stéphane Sirot.
Bonjour.
Stéphane Sirot, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves et du syndicalisme. Vous enseignez à l'université Cergy-Pontoise, non loin de Paris. On peut se reporter à un ouvrage que vous avez publié en 2011, Le syndicalisme, la politique et la grève, aux éditions de l'Arbre Bleu. Et avec nous en studio également Benjamin Coriade, bonjour.
Bonjour.
Benjamin Coriade, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés, des économistes qui contestent les politiques économiques en ce moment prédominantes en Europe. Alors au cours de cette émission, nous allons donc remonter le temps, faire un grand bond en arrière, grâce à de très nombreuses archives sonores fournies par la Sonothèque de RFI, Françoise Delignon en particulier, que nous remercions, par l'Institut National de l'Audiovisuel, mais aussi grâce à des témoignages d'acteurs de mai 68, recueillis par David Bachet du service économie de RFI et par Ariane Gaffuri.
Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord.
Jamais les organisations syndicales n'auront été en pareille situation de force pour négocier. André Bergeron de Force Ouvrière.
Ces discussions ont permis de réaliser un certain nombre d'accords concernant les salaires, le SMIG, concernant les problèmes de l'emploi, les droits syndicaux dans l'entreprise, les conventions collectives.
Principal acteur des négociations, Georges Ségui, secrétaire général de la CGT, attend prudemment l'approbation des travailleurs.
Ce qui a été obtenu ne saurait être négligé. Nous allons donc aller devant les travailleurs dans les usines. Ils pourront prendre, dans les meilleurs délais, leurs décisions en conséquence.
Il craint la réaction des ouvriers de chez Renault. Il n'a pas tort.
Le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève, selon les cas, écoutez, ça ne sera pas le cas chez Renault.
Et non, chez Renault, les ouvriers refusent de ne recevoir que 50% des journées de grève en salaire. C'était donc au lendemain des accords de Grenelle, en mai 68. À ce moment-là, Benjamin Coriade, dans quel état est l'économie française ?
Bah, l'économie française, à ce moment-là, dans l'ensemble, elle va plutôt pas mal, hein, au sens où c'est la grande période du fordisme. Donc,
c'est-à-dire
C'est-à-dire d'un système qu'on a appelé un système de production et de consommation de masse. Hein, c'est-à-dire, c'est le grand développement de tous les secteurs liés à la production de masse. L'automobile, l'électroménager, etc. Bien.
C'est le moment où les ménages français achètent des réfrigérateurs. Voilà, des télévisions, des voitures.
Exactement, où ils s'équipent, hein, après les grandes pénuries de la guerre et de l'après-guerre.
La Deuxième Guerre mondiale, 39-45.
Bien sûr. Les taux de croissance sont de l'ordre de 4 à 5%, hein, pendant cette période. Hein, vraiment, on a complètement oublié ça. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est le pouvoir d'achat en 25 ans, hein, va être multiplié par 3. On n'a jamais vu ça, hein, dans l'histoire du capitalisme. Voilà. Alors, ceci dit, la période de 68 proprement dit, c'est les premiers tassements, hein, c'est le premier essoufflement de ce système. On commence à avoir une petite montée du chômage. Aujourd'hui, on dit petite, mais à l'époque, elle était perçue comme telle. On crée à ce moment-là l'ANPE, hein, l'équivalent de l'ANPE. Donc, si vous voulez,
l'Agence nationale pour l'emploi qui s'appelle aujourd'hui voilà. Pôle emploi.
Donc, c'est une période qui est plutôt une période de croissance, mais avec les premières difficultés du fordisme qui vont se éclater, si je peux dire, qui vont exploser définitivement. Après 74-75.
On en reparlera, on y viendra. Stéphane Sirot, est-ce que les syndicats sont puissants? On a l'impression que oui. En mai 68.
En tous les cas, si on les compare à la situation d'aujourd'hui, ils le sont. On a toute une période qui est celle des années 50-60 où les taux de syndicalisation tournent autour de 20%. Comparé à ceux qui aujourd'hui sont estimés entre 7 et 10-11%, on est en gros largement au double. Donc effectivement, le contre-pouvoir syndical en termes d'adhérents est en bien meilleure santé qu'il ne l'est aujourd'hui. On a aussi un paysage syndical à ce moment-là qui est quand même en train de changer et une CGT qui est un peu bousculée parce que il faut rappeler quand même qu'en 1964 est née la CFDT, hein, et cette CFDT se construit sur les bases de l'autogestion, hein, qui fait partie de ses grandes revendications et qui tendent à bousculer le syndicalisme CGT qui lui est davantage axé sur des formes de revendications plus traditionnelles, plus quantitatives, comme on dit communément, sur les salaires par exemple, hein, on vient de l'entendre. Donc on a aussi cette situation-là qui est une situation quand même relativement nouvelle et une CGT qui, au fond,
proche
même si
du
elle
Parti
est
communiste.
Proche du Parti communiste, opposée au pouvoir du général de Gaulle, mais qui en même temps, en tant que contre-pouvoir, joue plus que jamais un rôle de régulation sociale. Donc elle s'oppose.
C'est-à-dire
qu'on est à ce moment-là en pleine régulation conflictuelle des rapports sociaux, c'est-à-dire que dans le modèle qui a été choisi en France historiquement, qui est celui du conflit, de la grève qui va déclencher ensuite éventuellement la négociation et le compromis, ce qu'on a pu appeler aussi à l'époque des Trente Glorieuses le compromis fordien, hein, l'échange salaire contre productivité, la CGT est à fond là-dedans, c'est-à-dire dans une forme de syndicalisme au fond très traditionnel et qui va se retrouver en effet face aux revendications de la classe ouvrière et du monde du travail de 68 et des jeunes, un petit peu en porte-à-faux par rapport à tout ça.
Et dans quel secteur se concentre ces forces syndicales? Là où il y a des ouvriers, il y a des syndicats?
Alors, il est bien évident, notamment pour ce qui est justement de la CGT, les grands bastions, c'est la France ouvrière. Hein, il faut quand même se souvenir qu'on a encore des mineurs, on a encore des métallos, on a encore des sidérurgistes, enfin bref, on a encore toute une série de professions où c'est d'ailleurs construit le modèle syndical français, hein, et qui reste pour la CGT ses principaux bastions, un peu moins pour la CFDT qui est plus ouverte à d'autres catégories. Mais on a quand même ces secteurs-là qui est dominé.
Benjamin Correa.
Oui, je rajouterais que derrière cette force des syndicats, et en particulier de la CGT, on a des éléments d'affaiblissement de l'intérieur, si je peux dire, qui sont déjà présents. Et c'est quoi? C'est que justement le fordisme s'est basé sur la production de masse d'ouvriers non qualifiés. Donc c'est la période pendant laquelle on importe de l'immigration, pendant laquelle les femmes commencent à travailler, donc et elles sont peu qualifiées. Les migrants ruraux, etc. Or, c'est pas la base traditionnelle du syndicalisme. La base traditionnelle du syndicalisme, c'est l'ouvrier mâle, blanc, professionnel. Et donc, les grandes masses qui vont entrer en mouvement en 68 et après, sont pas celles que le syndicalisme traditionnellement encadre. Et on va trouver des décalages hein, entre les mouvements ouvriers, hein, tels qu'ils vont s'exprimer, et le syndicat. Certaines fois, les syndicats, certaines fois, ils vont réussir à coller, mais d'autres fois, pas. Hein. Et c'est présent dès 68, ça.
Alors, 1968, ce n'est pas la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle que les syndicats donnent de la voix. En 1963, une grande grève des mineurs avait paralysé la production de charbon, vitale pour l'économie du pays à l'époque. On écoute le compte-rendu radiophonique de France Inter.
Il convient de signaler que les trains vapeur de Saint-Lazare ont été fortement perturbés tout au long de la journée. Une journée au cours de laquelle j'ai pu constater qu'en général, les gares ne connaissaient pas leur affluence habituelle. Beaucoup d'usagers de banlieue ayant pris le bus et le métro, parfois les deux, plutôt que de risquer des retards importants. Ici, la direction générale de la SNCF, à vous le studio.
Bon, maintenant, la situation dans les mines, dans les houillères du Nord, d'abord. Quelle est cette situation, Claude Laplot?
La grève est toujours totale chez les mineurs de fond. Les quelques descentes enregistrées sont celles des équipes de sécurité. Depuis 12 jours, aucun kilo de charbon n'est remonté à la surface. La grève se poursuit dans le calme. Aucune feuille de réquisition individuelle n'a été adressée jusqu'à présent aux mineurs. Aucune force de l'ordre n'est visible dans le bassin. Les femmes continuent à participer aux piquets de grève. Cet après-midi, elles ont été à l'origine de quelques manifestations de rue, comme à Bruay-sur-Escaut, manifestations au cours desquelles elles déclarent qu'elles sont aux côtés de leur mari dans cette grève et qu'elles tiendront jusqu'au bout. À part cela, rien d'autre à signaler.
De 1963 à 1968, est-ce que les choses avaient beaucoup bougé pour le monde ouvrier, Stéphane Sirot ?
Alors, d'abord, pour revenir un peu sur la grève de 1963, qui est d'ailleurs une des plus grandes grèves de notre histoire sociale, cette grève de 63, c'est en même temps un tournant parce que, sous-jacent derrière cette grève de 63, il y a la question de la fermeture des mines, qui a déjà commencé à être programmée dans le cadre de la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Et au fond, au travers de cette grève, les dirigeants, en tout cas de la Fédération du sous-sol de la CGT, qui est la plus puissante dans le secteur, sait très bien qu'elle est en train de commencer à se battre tout simplement pour la survie de ce secteur d'activité. Donc effectivement, de ce point de vue d'ailleurs, ça montre bien qu'on est de fait face à une forme de tournant et de renouvellement, comme c'était dit à l'instant, du salariat français, parce que le monde ouvrier traditionnel, là, à partir de ce début des années 60, bien plus que précédemment, il est en train d'entrer dans une phase qui le mène à un déclin inexorable, et qui a un impact, on l'a dit tout à l'heure, sur le syndicalisme lui-même. Cette grève de 63, elle ouvre aussi d'une certaine manière une séquence qui ne va pas se refermer avant la fin des années 70, c'est-à-dire une séquence d'ébullition sociale. Hein, 68, il est bien évident, ne tombe pas du ciel. 68, au fond, est annoncé par une série de mouvements majeurs, comme celui des mineurs de 1963, et qui est considéré souvent comme une première, incartade des Français vis-à-vis du pouvoir gaulliste. Hein, parce qu'il y a une espèce de fantastique solidarité, d'ailleurs, qui va s'organiser autour de cette grève de 63. Là, on parle beaucoup de caisses de grève en ce moment avec le mouvement qui concerne la SNCF. Mais les mineurs vont battre des records à ce moment-là et l'argent va affluer de partout. Y compris, on parlait dans le document des houillères du Nord, y compris par exemple venu de l'Église dans la région. Donc un vaste mouvement de solidarité qui est assez exceptionnel. Sachant aussi que dans ces années 60, il faut le rappeler, on ne l'a pas fait tout à l'heure quand on a évoqué 68, on a aussi un parti communiste qui est autour de 20% aux élections. Et ça aussi, au fond, ça change beaucoup à la fois le panorama politique et le rapport de force syndical.
À l'époque, Benjamin Coriat, la France, dans les années 60, est un pays très industrialisé.
Oui, absolument. C'est une période pendant laquelle, d'abord, il y a eu tous les investissements pour rééquiper la France après les destructions de la guerre. Et donc, il y a un consensus vraiment de la société française autour de la reconstruction. Moi, je me souviens d'avoir interviewé des salariés d'EDF qui avaient installé les premières centrales nucléaires ou électriques. Bon, et qui le faisait dans des conditions de sécurité très très approximatives, et qui disait mais Il faut chauffer les Français.
Ils acceptaient le risque parce qu'ils sentaient
absolument,
leur obligation de
absolument,
devoir.
Absolument, parce que leur métier, c'est de chauffer les Français.
Donc, de 1963 à 1968, le monde ouvrier était toujours ce qu'il était depuis des lustres en France. L'un des bastions du monde ouvrier en mai 68, l'un des bastions aussi du monde syndical, Stéphane Sirot, vous l'avez dit, c'était Renaud Billancourt aux portes de Paris. Écoutez le reportage de David Bachet, du service économique de RFI, qui a retrouvé des ouvriers de Renaud qui avaient fait grève à l'époque.
Depuis 10 ans que le gouvernement promet l'année sociale, eh bien je pense que c'est les ouvriers qui vont la faire eux-mêmes cette année.
En mai 68, Renault Billancourt est la plus grande usine de France. 98 hectares, 35 000 salariés. Entré chez Renault à 15 ans comme apprenti, Roger Sylvain, 87 ans aujourd'hui, est ajusteur à l'entretien des machines-outils. En mai 68, il est aussi secrétaire général adjoint du syndicat CGT de l'usine. Cela fait déjà plusieurs mois que le monde ouvrier en France connaît des mouvements de grève portant une série de revendications. C'est aussi le cas chez Renault.
La première question, c'est toujours le pouvoir d'achat, le salaire. Il y avait le retour aux 40 heures. On faisait encore 48 heures par semaine. Surtout, nous avons eu à Billancourt jusqu'à 11 000 travailleurs immigrés. Des Algériens, Tunisiens, Marocains, mais surtout l'Afrique noire. Le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Et pour eux, leur revendication principale, c'était faire sauter les contrats provisoires. Dans la pratique, des fois, on leur renouvelait 5, 6 fois, 7 fois.
L'agitation étudiante s'est manifestée à Paris. Dès le mois de mars, les étudiants de Nanterre occupent leur université. Le 13 mai, après une nuit de répression policière, c'est la grève générale. 3 jours plus tard, les premières usines Renault sont occupées. Aimé Albeher, 82 ans, est rentré chez Renault quand il en avait 14. Devenu secrétaire général de la CGT de l'usine, ce 16 mai 1968, le jour où tout commence, c'est lui qui s'adresse aux ouvriers de Renault Billancourt.
Je prends la parole et j'invite les salariés à occuper l'usine pour la nuit, pour éviter que la direction fasse appel à l'intervention policière, comme on avait déjà vu dans le passé. Le lendemain matin, les salariés rentrent dans l'usine, on les appelle à ne pas se rendre à leur poste de travail, à se rassembler dans l'île Seguin. Ils seront 20, 25 000 dans ce rassemblement. Et je leur dis, nous vous proposons d'occuper l'usine aujourd'hui et de décider d'une occupation reconductible chaque jour, de façon à ce que la direction ouvre les négociations et commence à discuter sérieusement.
Chaque matin, pendant plus d'un mois, les ouvriers reconduisent le mouvement. Ils sont alors plusieurs milliers à occuper l'usine, sans travailler, mais pas sans rien faire. Roger Sylvain.
Dans la classe ouvrière, on est en grève contre le patron, pas contre la machine. Vous avez des fours, si vous les arrêtez, il faut 2 mois pour les remettre en route. Ben les gars, ils étaient en grève, mais ils veillaient à ce que les machines soient entretenues. On avait une cantine qui tournait, les femmes qui faisaient marcher les cuisines et puis les cuisiniers, ils étaient en grève, mais ils faisaient le boulot pour faire manger les gars. Il y avait des spectacles qui étaient organisés. Ferrat, tous nos chanteurs très près de la classe ouvrière, là, ça venait, et bon, là, il y avait du spectacle. Autrement, dans une journée, ils s'occupaient, et ça peut partir de jouer à la belote, ou aux échecs. Ouais. C'est la vie normale, quoi.
Les accords de Grenelle sont signés le 27 mai. Les syndicats obtiennent une augmentation des salaires, la semaine de 40 heures, la liberté syndicale dans les entreprises. Les ouvriers de Renault, eux, continuent les occupations d'usines jusqu'au 17 juin. Ils obtiendront satisfaction sur leurs revendications spécifiques et conserveront encore de longues années la culture de la revendication.
Reportage signé David Bachet du service économique de RFI. Dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nous parlons de l'histoire économique et sociale de la Ve République avec deux invités, Benjamin Coriat et Stéphane Sirot. Benjamin Coriat, quelles ont été les conséquences économiques de ce mouvement ouvrier, syndical, social de mai 68?
Bah, écoutez, ça a donné une impulsion très forte, évidemment, à la consommation intérieure. Donc ça a consolidé considérablement ce ressort de la croissance. Je pense que, par ailleurs, un élément central des accords de Grenelle et de mai 68, sur l'aspect strictement économique, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Et ça a changé l'évolution du syndicalisme et l'évolution de de la manière dont se construit le rapport de force. Parce que à partir du moment où on a cette reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, les syndicats ont eu un moyen de relation plus proche, plus étroite avec les salariés, et ça a changé les choses. Ceci dit, au-delà des effets bénéfiques, hein, si je peux dire, de 68 et des concessions obtenues par les salariés, on était quand même dans une période d'épuisement du modèle, c'est-à-dire que la grande potentialité de la production de masse, le premier équipement des ménages, etc., touchait à sa fin. C'est une chose d'avoir sa première voiture, souvent la 4 chevaux, la Dauphine, etc., d'avoir son premier frigidaire, bon, réfrigérateur, et c'est autre chose de passer à un marché de deuxième équipement, parce que dans le marché de deuxième équipement, on commence à être beaucoup plus regardant, sourcilleux, etc. La concurrence joue bien davantage. Et donc, comment dire, cette première impulsion positive du Fordisme, du premier équipement, de la consommation dont les Français avaient été privés durement pendant la période de guerre et même d'après-guerre, s'essouffle. Et on va rentrer dans un nouveau monde.
On rentre dans un nouveau monde social, syndical, Stéphane Siro ?
Oui, il me semble, je vais revenir sur effectivement cet aspect crucial qu'est la légalisation du fait syndical dans l'entreprise.
Avant, les syndicats n'avaient pas voix au chapitre dans l'entreprise ?
Non. Il pouvait y avoir des travailleurs syndiqués dans les entreprises, mais si vous voulez, une organisation syndicale n'existait pas en tant que telle, ne désignait pas des délégués, n'avait pas de local, ne pouvait pas organiser d'ordre d'information syndicale. Et d'ailleurs, vous avez peut-être observé, c'est assez intéressant quand on regarde tous les tournages qui ont été faits sur les grèves en 68, quand on écoute des syndicalistes, on les voit toujours haranguer la foule devant les portes de l'usine, parce qu'effectivement, ils ne pourraient pas le faire à l'intérieur. C'est un changement majeur. Alors, qui effectivement va donner des droits supplémentaires aux organisations syndicales, mais qui va être au fond, à mon sens, à double tranchant pour le syndicalisme, parce que s'initie à ce moment-là un mouvement qu'a bien compris d'ailleurs l'ordre dominant dans tous les sens du terme, dans son sens politique comme dans son sens économique, et on voit se développer après 68 toute une série de discours autour de la démocratie industrielle, puis de la démocratie sociale, qui consiste au fond à déporter la négociation collective et l'action syndicale du plan national et interprofessionnel vers celui de l'entreprise, et à essayer de faire en sorte que le conflit social devienne un moyen subsidiaire de résolution des différends au profit d'une espèce de dynamique qui inscrirait les relations sociales à la française dans une direction qui tendrait vers une forme de pacification des relations sociales et d'identification du syndicalisme à l'entreprise et à ses enjeux. Donc effectivement, quand on replace cet acquis de 68 dans une histoire de longue durée, on peut effectivement en débattre.
En 1968 et dans toutes ces années-là, Roger Sylvain le disait, on écoutait des chanteurs, Jean Ferrat, Léo Ferré, Jacques Brel, plein d'autres. On écoutait aussi cette voix-ci.
Tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Avec moi, j'en sais rien, viens donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Viens, donne-moi demain.
Mélocotone, c'était une chanson interprétée par Colette Magny, une grande voix de ces années-là.
Ah oui,
Benjamin Coriat, je vous vois un peu ému même.
Oui, oui, parce que c'est une voix qui vient un peu de nulle part, hein, comme on a eu d'autres, plus sociales, hein, de la période de 68. Elle est typique de cette période. Moi, par exemple, je me souviens de l'avoir vue dans des meetings de soutien aux ouvriers de la Rodia Seta, aux ouvriers de Saint-Nazaire. Elle a aussi une chanson sur Saint-Nazaire. Les grandes séquestrations de Saint-Nazaire sont un des moments importants de la période 68. Donc c'est vraiment un excellent choix, parce que c'est une voix oubliée, mais c'est une voix essentielle de cette période.
Stéphane Siron, vous l'enseignez, Colette Magny, dans vos cours?
Non, pas particulièrement, mais je devrais le faire, parce qu'en plus elle a une très, très jolie voix. Mais au-delà de Colette Magny, c'est vrai qu'il y a aussi une tradition dans les mouvements sociaux, notamment quand il y a des occupations d'usines. C'était vrai aussi en 36, hein, où l'on voyait effectivement des chanteurs, des comédiens qui se déplaçaient pour exprimer leur solidarité avec les travailleurs en lutte, et même sans qu'il s'agisse parfois de mouvements aussi spectaculaires que le Front Populaire ou mai 68. Il était régulier, moi, quand j'ai fait ma thèse sur les grèves à Paris dans les années 1920 et 1930, mais même dans des conflits de taille relative mineurs, on voyait des galas de solidarité, comme on les appelait, bien qui sûr, étaient organisés pour venir en aide aux grévistes, pour organiser des collectes. Oui, alors plus tard Mouloudjip, et même jusqu'à une période relativement récente, par exemple Bernard Lavillier qui soutenait
les sidérurgistes. Oui, il est même venu soutenir les salariés de RFI qui étaient en grève il y a quelques années.
Il y a toute une tradition, même si la chanson militante, me semble-t-il, est peut-être moins vigoureuse qu'elle ne l'était dans les années 60, mais il y a quand même toute une tradition.
Alors, on va franchir une étape, on va parler de l'année 1973. Et voilà, pour nous introduire à cette nouvelle période historique de l'histoire économique et sociale française, un extrait du journal de 19h de France Inter, le 5 novembre 73, avec une voix que vous allez peut-être reconnaître.
Interactualité, édition du soir, Patrick Poivre d'Arvor.
Bonsoir. Un buggy en Inde, c'est un véhicule à deux roues traîné par un cheval. Eh bien, c'est en buggy que Madame Gandhi, le premier ministre indien, est arrivé ce matin à son bureau. Tout cela pour montrer à ses compatriotes comment économiser leur essence. Rassurez-vous, ce n'est pas demain que Pierre Messmer arrivera en fiacre à Matignon. Ce n'est pas non plus demain que vous circulerez tous à bicyclette. La France n'a aucun souci à se faire pour le pétrole. Voilà ce que vient de déclarer Mohamed El Zayat, l'envoyé spécial du président Sadat, reçu pendant plus d'une heure par le président Pompidou.
Monsieur Zayat, votre rôle can you play?
Le conflit du Moyen-Orient devient une guerre du pétrole. Jusqu'où ira l'utilisation de l'arme du pétrole de la part des nations arabes?
La France n'a aucun souci.
Alors, ces inquiétudes pétrolières, elles sont provoquées par la menace d'embargo de pétrole pour les pays qui soutiendraient Israël dans la guerre du Kippour qui a éclaté 3 semaines plus tôt. Ce choc pétrolier, c'est le premier, il y en aura un autre quelques années plus tard. Est-ce qu'ils sont à l'origine d'une mutation importante dans l'économie française, Benjamin Coriat?
Je vais dire oui et non. Bon, c'est vrai que le choc pétrolier, donc de 73, lié à la guerre, qui a provoqué un quadruplement du prix du pétrole, a été un choc pour l'économie française comme pour l'économie mondiale. Mais en même temps, jamais ce choc n'aurait été si important s'il n'y avait pas eu tous les éléments de fragilité du système fordien dont on parlait tout à l'heure. En 73, donc en fait, ça va se traduire par le fait que en 74-75, il y a une tentative de relance. C'est ce qu'on appelle le plan Fourcade. Comme on faisait d'habitude, hein, ça veut dire qu'en cas de récession, on faisait de la relance. À l'époque, en cas de récession, on faisait pas encore plus de récession, hein, comme on fait aujourd'hui. Bon, et ça a échoué. Et ça a échoué. Et c'est une des premières fois où une relance succédant à une récession échoue. Ça s'est traduit par une augmentation de l'inflation et pas de reprise la croissance.
Et du chômage.
Oui, en tout cas, le chômage n'a pas baissé comme on le faisait auparavant, ce qu'on appelait les relances keynésiennes. Et donc ça, c'est vraiment la fin du Fordisme, hein, c'est-à-dire la belle mécanique production-consommation de masse assise sur les accords d'entreprise, productivité-salaire, assise sur la dépense publique de type relance keynésienne ou de l'État-providence, ça ne marche plus. Hein, ça ne marche plus. Et donc, vraiment, on bascule dans une autre période c'est pour ça que le choc pétrolier est important, non pas en lui-même, mais parce qu'il va montrer la fragilité d'un système et le fait que les anciennes recettes marchent plus. On passe dans une autre période.
On passe aussi dans une autre période pour le monde syndical, social,
oui,
Stéphane
Siron. Bien sûr, parce que effectivement, justement, cet éclatement du compromis fordien sur lequel s'était largement appuyé le syndicalisme français, il vole en éclats, bien sûr, ce compromis. Et donc, ce fameux grain à moudre, hein, comme disait Bergeron, il est plus là.
L'ancien secrétaire général de France Ouvrière qu'on entendait tout à l'heure.
Exactement. Et puis, toute une série de bastions ouvriers dont on parlait aussi tout à l'heure vont s'effondrer. Donc ça va être pour le syndicalisme et particulièrement pour la CGT quelque chose de très douloureux. Et le mouvement qu'on a appelé de désyndicalisation va commencer quelques années plus tard. Hein, on le date en gros de 1979, hein, où peu à peu les transformations du salariat, du monde du travail éloignent certains secteurs de la syndicalisation. Les modalités des conflits vont évoluer aussi. Parce que bien évidemment, ce contexte n'est pas vraiment propice aux mobilisations collectives, et ces mobilisations collectives tendent aussi elles-mêmes à changer de nature. Hein, on voit émerger, par exemple, des conflits pour la défense de l'emploi qui étaient quasi inexistants auparavant. Oui. Bref, il y a tout un décor qui effectivement est en train d'évoluer.
Oui, pour aller dans le même sens, c'est le début de l'entrée dans le chômage de masse. Hein, on va rentrer dans le chômage de masse qui va se consolider palier par palier jusqu'à nos jours.
Bien. Alors cette question du chômage sera d'ailleurs un des thèmes débattus pendant la campagne électorale de 1981 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Écoutez ce court échange entre les deux hommes lors du débat de deuxième tour de l'élection présidentielle.
1 700 000 chômeurs.
Demandeurs d'emploi.
Je sais bien la distinction sémantique qui permet d'éviter les mots qui brûlent la bouche, mais le chômage, il est ressenti comme le chômage.
Bien entendu.
Et non pas comme la demande d'emploi
par
les millions et les millions de gens qui nous entendent. Chômeurs, 1 700 000. On nous en promet, ce sont les experts, 2 500 000, si votre politique continue pour les années prochaines d'ici à 1985. C'est une association d'économistes qui disait que nous aurions 500 000 chômeurs de plus dans les années prochaines. Et vous savez très bien que c'est également l'opinion du grand patronat français, si j'en juge par les dernières déclarations, du CNPF. Si cette politique continue, nous aurons au moins 2 500 000 chômeurs. Et vous n'avez pas agi contre cela. Vous l'avez accepté. C'est même la plaie de votre expérience et de votre septennat.
À cette époque, à la CGT de Renault, on pouvait trouver un militant à l'accent américain. Nat London arrive en France dans les années 1970 après un parcours de militant très actif contre la guerre du Vietnam et contre la ségrégation raciale aux États-Unis. En 1981, il est recruté comme cariste au bas de l'échelle, donc, par Renault. Voilà un extrait du récit qu'il nous a fait.
Quand moi j'étais embauché, c'était pas tout seul. Le chef contremaître dans notre usine avait embauché une quarantaine de caristes. Et ces quarantaines de caristes n'étaient pas payés le même que les anciens embauchés. Ils ont dit que nous, on était que des manutentionnaires qui conduisaient les cars, et pas les vrais caristes. Et donc, on était à l'échelon inférieur. Et pendant 6 mois, on avait fait un mouvement, les anciens caristes et les nouveaux embauchés, pour avoir l'égalité. Toutes les semaines, toutes les 12 semaines, on avait une manifestation, un débrayage, monté au bureau de le contremaître pour les coincer au bureau. Il y avait c'était musclé. Et ça a désorganisé la production dans plusieurs usines, parce que nous, notre usine fournissait les pièces aux autres usines.
Vous étiez où?
C'est-à-dire Choisy-le-Roi. C'est pas une usine de montage où elle fait des moteurs, mais à cette époque, elle fournissait des pièces aux autres usines. Donc si on n'était pas à l'heure, les chaînes dans d'autres usines fermaient. Et donc ça commence à désorganiser la production. La direction nationale a dû intervenir et reconnaître notre droit d'être cariste à l'égalité. Et on gagnait ça, on était les rois des travailleurs dans l'usine. Tout le monde qui avait un problème, il venait me voir, et moi j'ai organisé des caristes, on descendait à tel ou tel atelier pour régler le problème. Les ateliers étaient organisés de façon très différente. dans la même usine. Donc il y avait un atelier qui était largement, et je crois que c'était intentionnel, largement africain, qui avait le pire de conditions de travail. C'était le démontage, où on démontait les vieux moteurs pour faire les moteurs échange standard. Et les travailleurs là étaient africains, c'était sale, c'était dangereux, c'était pas équipé. Ils ont demandé de l'aide, et donc on avait fait dans cette année une action en moyenne tous les deux semaines, tous les 12 semaines et demie dans cet atelier. Surtout sur le racisme, sur la sécurité dans le travail, sur les accidents. Et il y avait toujours des actions jusque la direction un peu sur l'analphabétisme. Et beaucoup de travailleurs étaient analphabètes. Et pas que les immigrés, il y avait des Français aussi analphabètes. Et on demandait le droit des travailleurs analphabètes d'être pris comme caristes. Mmh. Parce que s'ils étaient manutentionnaires, Caris, c'était le seul débouché, mais c'était bloqué si on était analphabète. Et on a gagné ça.
Et vous étiez syndiqué?
Au début, j'étais pas syndiqué et j'ai travaillé, c'était le CGT qui a soutenu notre mouvement et j'étais syndiqué par la suite et je suis devenu délégué et j'étais secrétaire de l'immigration de la CGT dans cette usine à Renault.
Et donc, vous avez fait toute votre carrière à Renault. Est-ce que vous êtes monté dans la hiérarchie
syndicale ou
non de l'entreprise?
Oh non 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 non. Pour un délégué, il y avait une promotion était impensable. Tu restais sur place, tu n'avais aucune prime, tu n'avais aucun avantage. Et non.
Un témoignage assez fort de Nathanael London. La montée du chômage, ces tensions au sein des entreprises, on a l'impression d'une vie économique et sociale très dure.
Ben oui, si vous voulez, je trouve que encore une fois, ce reportage est très bienvenu. La période de l'après 74-75, hein, celle dont on parle maintenant, elle est marquée par une tension et une contradiction fondamentale, qui est que d'un côté, le Fordisme produit ses effets. Ça veut dire que les conditions de travail dégradantes, le travail parcellisé, répétitif, la possibilité de discriminer les travailleurs, etc., dans les conditions de travail, est très forte, comme on vient de le voir. Et de l'autre côté, la question de plus en plus essentielle, c'est le chômage, qui n'est pas du tout la même question. Et donc, je veux dire, le syndicalisme est pris à contre-pied d'une certaine manière, parce que la grande question c'est le chômage, et ce qu'il sait faire c'est davantage le salaire, les conditions de travail dans l'usine, etc. Et donc on a une très forte tension, hein, entre l'incapacité de faire face au chômage d'un côté, qui est la grande question, et de l'autre côté gérer les problèmes de légués par le fordisme en termes de conditions de travail, etc., alors que le rapport de force est très faible à cause du chômage. Et je pense que c'est une des grandes causes de l'affaiblissement du syndicalisme.
Stéphane Siro.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant,
la balle est dans votre camp.
Pour prolonger ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant aussi dans le témoignage, c'est qu'on voit apparaître la question des travailleurs étrangers.
Bien sûr.
Hein, alors, bien sûr, lui, il est américain, c'est encore un petit peu différent, parce que la question va surtout se poser vis-à-vis des Maghrébins, en particulier. Et effectivement, les années 70-80, on voit monter les revendications de ces catégories de travailleurs qui, d'ailleurs, elles-mêmes tendent aussi à bousculer un peu le syndicalisme français, hein, parce que Benjamin l'a dit tout à l'heure, le syndicaliste français, c'est plutôt un homme mûr, blanc, enfin bref, hein, c'est quelqu'un de bien intégré, hein, professionnel, effectivement. Là, on va avoir des catégories qui sont pas du tout les mêmes, qui n'ont pas forcément les mêmes revendications, qui subissent au fond une double exploitation, l'exploitation classique du travailleur français, plus celle qui subissent en tant que travailleurs immigrés, hein, et qui vont déboucher, effectivement, sur une adaptation du syndicalisme vis-à-vis de ces catégories ouvrières qui au départ les surprennent un peu et puis qui vont faire vivre aussi leurs revendications et qui vont les prolonger longtemps jusqu'à aujourd'hui au fond, parce que regardez, les travailleurs maghrébins vont lutter par exemple au moment de la fermeture des mines pour disposer des mêmes conditions que les mineurs français. Récemment encore, il y a encore quelques jours d'ailleurs, vous avez eu connaissance de cette affaire qu'on appelle celle des Chibani, c'est-à-dire de ces Marocains, de ces Maghrébins qui avaient été embauchés par la SNCF pour faire le même métier que les cheminots, mais sans l'être sous le statut, et qui ont dû se battre jusqu'à la semaine dernière pour faire valoir leur droit en justice à être traités de la même manière. Donc les années 70, c'est aussi, hein, l'émergence de toute une série de luttes hein, de ces nouvelles catégories de travailleurs qui émergent sur la scène sociale, que sont les immigrés.
Mais ce chômage dont vous parlez, Benjamin Coriat, est-ce que ça n'est pas la marque du début aussi de la désindustrialisation du pays ?
Oui. Oui,
la dans les années 70-80,
absolument. Ça commence à ce moment-là. Alors, si vous voulez, dans les années 80, il y a maintenant un autre élément qu'il faut faire entrer en ligne de compte et qui est directement lié à tout ça, qui est 1986, l'acte unique européen, 1993, le traité d'Amsterdam, et donc une mutation dans l'Union européenne et qui est directement liée à notre sujet, parce que toute la première période de construction de l'européenne, elle était en phase avec le fordisme. Ça veut dire que elle permettait d'ouvrir les frontières, d'accroître les marchés, etc. La deuxième phase, c'est une phase pendant laquelle on va libéraliser les services, etc. Donc ça va avoir des effets de désindustrialisation très importants. Et puis, les critères de convergence de Maastricht vont nous enfermer dans des politiques récessionnistes, si on peut dire. Donc, si vous voulez, cet élément est très important parce que il va compléter la crise, d'une certaine manière, en apportant des éléments aggravants. Encore une fois, moi, je pense que c'est très important sur l'Europe de bien distinguer les phases et les périodes. Hein, et je pense que pendant cette période-là, 86-93, on a eu des initiatives tout à fait malheureuses et qui ont contribué à tendre les questions sociales et en particulier pour la France la désindustrialisation.
Grâce à vous, Benjamin Coriat, nous sommes dans les années 90. En 95, Jacques Chirac est élu président de la République. Il succède aux deux mandats de François Mitterrand. Le premier ministre de Jacques Chirac, c'est Alain Juppé qui lance une grande réforme des régimes sociaux et des régimes de retraite. Les syndicats s'élèvent contre ces réformes et le pays est de nouveau paralysé. Le 5 novembre 1995, RFI diffuse ce reportage de son journaliste Patrice Biancone.
La place de la République et les grands boulevards étaient noirs de monde. À la tête du cortège, les cheminots CGT, qui, au rythme des tambours et des trompettes, demandaient le retrait du plan Juppé et le maintien des régimes spéciaux. Une ambiance de fête, donc, et de la part des manifestants, une espèce d'assurance, de certitude même, de voir aboutir leurs revendications qu'ils scandaient au milieu des fumigènes et des acclamations.
On est, je crois, bien reparti pour continuer. Je crois que tout le monde veut absolument gagner. Il faut absolument que soit retiré le plan Juppé et le plan Vergugno au niveau de la SNCF.
Qu'est-ce que vous désirez pour le futur, vous-même ?
Pouvoir partir en retraite à 55 ans. Pouvoir aussi que l'entreprise, et bien ma foi, la SNCF retrouve des clients et puisse fonctionner en service public et non pas comme une entreprise complètement sur le modèle ultralibéral.
Des cheminots dans cette manifestation, mais aussi des postiers, des employés d'électricité et gaz de France, des instituteurs, des infirmières et des étudiants qui manifestaient bruyamment leur soutien à tous les travailleurs de la fonction publique.
Moi, je ne travaille pas à la SNCF et je pense que ma retraite, elle est concernée à un moment ou à un autre aussi.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Moi, je suis animatrice et je travaille au Black et je suis couturière. Je suis obligée de faire deux boulots pour vivre.
À la même époque, le Premier ministre Alain Juppé explique son action par des raisons économiques.
Un pays qui s'endette est un pays qui perd peu à peu sa liberté et son indépendance. Et puis, les déficits d'aujourd'hui, les dettes d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain, parce qu'il y a bien un moment où il faut rembourser. Eh bien, c'est avec cette politique de facilité qu'il nous faut rompre, c'est notre tâche, il faut réduire les déficits et réduire les dettes. En baissant aujourd'hui les déficits et les dettes, nous préparons le moment venu, le nécessaire allègement de la pression fiscale.
Stéphane Sirot, cette manifestation, cette déclaration, c'était il y a 23 ans, 1995. C'était un mouvement très important. On a l'impression que ça a été le chant du cygne du syndicalisme en France et qu'en même temps, les termes du débat sont les mêmes que ceux auxquels on assiste aujourd'hui.
Oui, c'est effectivement ce à quoi je pensais à l'instant. On se croirait en 2018 quand on écoute tout cela. Aussi bien d'ailleurs dans le discours des militants et des grévistes. Hein. On est en plein dans la convergence des luttes, cette thématique qu'on développe beaucoup aujourd'hui dans le champ syndical. Et puis de l'autre, hein, dans les permanentes injonctions budgétaires qu'on voit se multiplier depuis au moins 30 ans. Alors, 1995, c'est vrai que si on regarde au plan des mouvements nationaux interprofessionnels, c'est la dernière grande victoire des organisations syndicales. Parce qu'il y a eu certes, et c'est souvent cité, en 2006, la lutte victorieuse contre le CPE, le contrat première embauche, qu'avait initié d'ailleurs Chirac et de Villepin. Mais il s'agissait avant tout d'un mouvement de jeunesse. D'un mouvement d'étudiants, de lycéens, avant même d'être un mouvement de salariés, de travailleurs et de syndicats de salariés. Donc c'est la dernière grande victoire. Depuis 1995, les organisations syndicales vont d'échec en échec. On peut les citer, ça va vite. Ça commence en 2003. Il y a une phase, on est dans une phase qui dure depuis 15 ans, 2003, 2009, 2010, 2016, 2017 avec les ordonnances Macron, où les mobilisations interprofessionnelles se sont systématiquement trouvées confrontées à un échec. Alors ce qui évidemment interroge après les modalités d'intervention du syndicalisme dans la société, les moyens qu'il choisit pour lutter, la forme de syndicalisme, etc.
Peut-être l'affaiblissement du syndicalisme aussi, sa moindre importance numérique.
Voilà, moi, de mon point de vue, si on se réfère à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il me semble que le syndicalisme se trouve face au mur de sa propre institutionnalisation, voire surinstitutionnalisation, qui donne d'un côté un modèle qui s'oriente plutôt vers, ou veut s'orienter vers le compromis et la négociation collective, c'est celui que mène la CFDT, mais qui n'obtient rien. On le voit avec l'actuel pouvoir politique. La CFDT, qui multiplie les mains tendues, qui multiplie les perches, n'obtient rien. Mais elle agit aujourd'hui comme un syndicalisme de lobbying. C'est-à-dire qu'elle a oublié un peu comment elle peut agir autrement que par des conciliabules, par des discussions, par des tentatives d'orienter à sa façon les textes de loi. Mais si elle n'y arrive pas, elle ne sait plus quoi faire. Donc c'est l'échec de ce point de vue-là. Mais ça l'est aussi d'une certaine manière, de la part, au plan encore national, du syndicalisme. Syndicalisme de lutte qui, tout en continuant de mobiliser, s'inscrit dans des modalités d'action qui sont des modalités d'action hyper ritualisées, qui correspondaient à l'époque des Trente Glorieuses, avec ces journées d'action de 24 heures qu'on déclenchait 2-3 fois, et puis après le pouvoir politique tendait la main et on discutait, on arrivait à un compromis, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce pouvoir politique ne tend plus cette main et ne veut plus de ce compromis. Et le mouvement syndical, qui est aujourd'hui confronté à cette situation, a besoin, me semble-t-il, de réfléchir à comment arriver à se sortir de cette espèce de nasse dans laquelle il est enserré.
Benjamin Coriat, est-ce que vous voyez un lien entre cet affaiblissement syndical et la situation économique du pays, la désindustrialisation, le chômage de masse ?
Incontestablement, oui. Bon, donc je souscris tout à fait à ce qui a été dit, encore une fois. 95, c'est la dernière grande victoire. On va essuyer toute une série de défaites. Je rajouterai un point et ça répond à votre question. Il est exact que la désindustrialisation, l'émergence de toutes ces activités de services, pour ne rien dire des GAFA, Uber, etc., en dehors de la réglementation, évidemment, c'est des facteurs d'affaiblissement considérables du syndicalisme. Mais il faut rajouter un point, qui est la crise de la social-démocratie et la crise de la vision social-démocrate. Parce que la social-démocratie n'a plus de projet. Et c'était très important pour le syndicalisme d'avoir un relais. C'est-à-dire le développement de l'État social, le développement de l'économie mixte à travers l'investissement public, etc., a été abandonné par la social démocratie française. Je veux dire, la période Valls en France, par exemple, elle est caricaturale. C'est l'alignement complet sur des positions néolibérales. Donc, oui, le syndicalisme s'est affaibli, mais pour sortir de là, il faut reconstituer un projet politique alternatif crédible. Et ça marchera ensemble, la reconstitution des deux.
On verra bien. Benjamin Coriat, vous êtes peut-être optimiste. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous deux, Stéphane Siro et Benjamin Coriat, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Merci à Françoise de Lignon de la Sonothèque, qui a puissamment contribué à l'élaboration de cette émission. Vous pouvez réécouter Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur le site internet www.rfi.fr ou si vous êtes sur votre téléphone portable sur l'application Pure Radio. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.